Samuel, au chapitre 23, les versets 1 et 2. Samuel, chapitre 23, versets 1 et 2. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Amen. Je voudrais ce matin avec vous porter notre attention sur ce que la Bible appelle les dernières paroles de David, les dernières paroles de ce fameux roi David. On a bien compris la solennité et l'importance de la formule, parce que lorsqu'on prononce les dernières paroles de notre existence, forcément, on va à l'essentiel. Pendant les 70 ans approximativement qu'a duré la vie de David, il y a eu des expériences multiples. La vie de David est d'une richesse, d'une densité impressionnante. Mais à la fin de sa vie, voici les dernières paroles que David retient. Ce sont les paroles qui demeurent. Et dans les paroles qui nous sont rapportées ici, David lui-même retient quatre éléments majeurs de sa vie, de sa personne. Il se présente comme David, le fils d'Isaïe. Il mentionne secondement qu'il est l'homme haut placé. Troisièmement, il évoque l'expérience certainement la plus capitale, la plus vitale pour lui, mais aussi pour chaque chrétien, l'expérience de l'onction divine sur sa vie. Et puis, il mentionne également, quatrièmement, que David a été le chantre agréable d'Israël. Ce sont quatre points sur lesquels j'aimerais que nous puissions méditer ce matin, frères et sœurs, chers amis, pour... oui, qu'est-ce que ça va ? Allô, allô ? Ah, ça va, je me reconnais, c'est bon. Le fils d'Isaïe, c'est la toute première mention que David fait de lui-même. Il est une chose qu'il ne veut surtout pas oublier, et nous serions tous bénéficiaires de ne pas l'oublier non plus pour notre propre compte, ce sont ses origines. C'est la condition initiale dans laquelle Dieu s'est révélé à lui et a déployé sa grâce en sa faveur. Le Seigneur, par le prophète Nathan, un jour visitera David vers la fin de sa carrière et il lui dira « Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis. » J'ai envie de dire « Souviens-toi, David. Souviens-toi où je t'ai rencontré. Souviens-toi du commencement. Souviens-toi de l'expérience originelle qui va inaugurer pour toi toute une marche merveilleuse. » Cette expérience originelle, Dieu la rappelle à David, « Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand. Amen. » J'appelle ce premier paragraphe la grâce que Dieu a manifestée en faveur de David. Et mon frère, ma sœur, s'il est une chose que tu dois graver dans ta mémoire et raviver dans sa beauté, son intensité, c'est la grâce que Dieu a manifestée en ta faveur. D'ailleurs, sans sa grâce, cette salle serait vide. Nous ne serions pas là. Et celui qui vous parle en est bien conscient. C'est à la grâce de Dieu, permanente, sans cesse maintenue et renouvelée, toujours ponctuelle pour venir à mon secours, c'est à sa grâce que je dois d'être là ce matin. Ce n'est pas par l'énergie humaine, par la mensuration de mes biceps, ce n'est pas par la force de caractère, par quelques compétences humaines, mais c'est par sa grâce. Plusieurs cantiques ont fortement insisté ce matin sur la grâce de Dieu en action dans la vie du croyant. La grâce de Dieu. La Bible me dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je lisais sur une enseigne d'une boutique alimentaire, il n'y a pas de Noël sans chocolat. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de véritable Noël sans placer au centre de cet événement le don de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Car en venant au sein des hommes, Jésus est venu révéler la grâce et la vérité. Elles sont venues par Jésus-Christ. Oh, que ce Noël 2024 que beaucoup vont célébrer dans quelques jours puisse être l'occasion providentielle, l'occasion de Dieu pour ouvrir l'intelligence de quelqu'un parmi nous ce matin, afin que derrière un événement du calendrier simplement, tu puisses prendre conscience qu'il y a le don de Dieu, qu'il y a la venue de celui qui nous révèle la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. L'apôtre Paul va surenchérir, lui, le défenseur intraitable de la grâce. Il va écrire ces paroles merveilleuses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Oui, Jésus sauve. Mais il sauve parce qu'un prix a été payé. Le prix que nous n'aurions jamais été en mesure de payer, il l'a payé en donnant sa vie sur une croix, et parce que la rançon a été payée, oui, par cette grâce acquise, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Je disais que Paul donnait une importance toute prioritaire à la grâce de Dieu. Il ne manquait jamais, en introduction de ses épîtres, de saluer ses lecteurs en leur souhaitant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invariablement, constamment et en tête d'épître, voici le message tellement spirituel que Paul adressera à tous les lecteurs des Saintes Écritures, que la grâce et la paix vous soient données. Permettez que de tout cœur, je vous transfère cette prière ce matin. Mon frère, ma sœur, mes chers amis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Encore une fois, je ne sais quelle est la circonstance que vous traversez. Peut-être êtes-vous tétanisé par un problème géant. Peut-être êtes-vous stressé, tendu, inquiet, dubitatif, dans un questionnement angoissant. Je ne sais quel est le contexte que vous traversez, mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu comporte et véhicule le secours de Dieu dans n'importe quelle situation. Que le Seigneur soit béni, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père. Dans une séquence douloureuse de sa carrière, infirme, tenaillé dans sa santé, dérangé par des douleurs et des infirmités physiques, l'apôtre Paul va prier le Seigneur et va lui demander de le guérir de son écharde, comme il l'appelle. Et Paul va dire trois fois, j'ai prié. Et trois fois, la même réponse. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je suis émerveillé de cette parole qui me révèle la suffisance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une formule. Dans les pays orientaux, on dit grâce à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. La grâce de Dieu, j'ai besoin de toute l'intervention du Saint-Esprit en moi pour me faire admirer toutes les richesses qu'elle contient. Et je dis à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur, la grâce de Dieu te suffit. Parce que tu vas y puiser chaque jour la quantité et les ressources d'assistance divine qui vont te permettre de surmonter, d'aller encore, de persévérer, et d'aboutir, de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur avec l'héritage de la palme de la victoire. Que le Seigneur soit béni. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et voyez, lorsque, en tout premier lieu de notre CV, nous plaçons la grâce de Dieu manifestée pour nous, premièrement, ça nous garde humble, oui ou non? Ah oui, parce que ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos performances psychologiques, intellectuelles, que sais-je, c'est par grâce. Nous n'y sommes pour rien, notre lot, c'est d'avoir cru. Et en croyant, nous recevons, nous sommes bénis, alléluia, ça nous garde humble. Deuxièmement, ça nous rend fort, parce que quand même, sa grâce me suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gérer tous les défis qui vont jalonner mon chemin, j'ai l'assurance que dans la grâce de Dieu, pour moi, j'ai absolument toutes les capacités, toutes les facultés, que quelqu'un cesse de dire ce matin, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Je sens que je vais craquer. Je sens que je vais capituler. Balaye ces pensées mensongères et fortifie-toi parce que sa grâce dans ta vie est suffisante. Elle nous rend fort. Et troisièmement, avant de passer au second paragraphe, la grâce de Dieu, lorsque je la rappelle à ma mémoire, elle nourrit mon adoration. Amen. Ah, ben oui. Moi, je vous fais une petite confidence. Il m'arrive assez fréquemment de remettre ma vidéo personnelle au départ, il y a 52 ans en arrière, dans cette période merveilleuse où je découvrais l'Évangile. Et je repasse le film. Moi, je fais des replays comme ça. Ouais. Et je repasse le film. Mais mes amis, je ne me lasse pas de repasser la vidéo de ma conversion et de ma marche chrétienne et de ce demi-siècle au cours duquel j'ai vu tant et tant de fois sa grâce intervenir. Et à chaque souvenir ravivé dans ma mémoire, mon cœur se remplit de louanges et d'adoration. Je veux terminer comme Jacob qui, appuyé sur son bâton, par la foi, a adoré l'Éternel. Il est parti comme ça, en adorant l'Éternel. C'est impossible si tu oublies la grâce merveilleuse dont tu es et as été le bénéficiaire ou la bénéficiaire. Que le Saint-Esprit ce matin ravive en nous la conscience de la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis, après avoir parlé simplement de son statut de fils d'Isaïe à qui Dieu a fait grâce, alors David va mentionner secondement qu'il est devenu l'homme haut placé. L'homme haut placé. Il y a un psaume merveilleux qui dit ceci, je vous lis ces trois versets. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Et David est devenu, non pas à la force de ses poignets, motivé par une ambition malsaine de décrocher quelques promotions. Non, non, non. Il est devenu, parce que Dieu a fait cette œuvre dans sa vie, il est devenu l'homme haut placé. J'aborde ici le deuxième volet de ce message, ce que Dieu veut et est capable de faire dans notre vie, c'est de nous retirer de la poussière et du fumier pour nous faire asseoir avec les grands. C'est l'élévation. Non pas pour une gloriole ridiculement humaine, mais parce que la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous partagions sa gloire. L'homme haut placé s'est trouvé plus d'une fois, il suffit de lire sa biographie dans Samuel et dans les psaumes, il s'est trouvé plus d'une fois complètement à ras les pâquerettes. Il s'est retrouvé plus d'une fois dans des crises familiales. Absalom, Adonija et d'autres séquences dures. Il s'est retrouvé fuyant la haine maladive de Saül qui respirait le meurtre à son encontre. Il s'est retrouvé trahi, abandonné. Dans les psaumes, bien des fois, il parle des comploteurs qui manigancent dans le secret des desseins malveillants pour le faire choir. Et même, il se frotte les mains déjà, il se réjouit, il anticipe, ça y est, il va tomber. Il a traversé toutes ces choses. Cependant, il rend témoignage dans ses dernières paroles que son Dieu a fait de lui, malgré tout, envers tout, l'homme haut placé. Pour aboutir à cette œuvre, il a fallu que David expérimente tant et tant de fois la restauration, l'encouragement, le relèvement. Lorsqu'il rentre d'une campagne militaire et que de loin il voit sa ville Tsiklag brûler, la fumée monte et de loin il voit cela. Et il arrive avec ses 600 soldats et il s'aperçoit que les Amalécites avaient tout détruit et emporté avec eux ses deux femmes, ses enfants, Akinoam, Abigaïl, et qu'ils avaient fait ça pour tous les autres et qu'il n'y avait que des ruines fumantes. Ben, c'était pas l'homme haut placé là. Il a été dans un état de démoralisation incroyable. C'est une scène épouvantable qui s'offrait devant ses yeux. Et bien sûr, souvent dans la détresse, l'être humain change et ses partisans se sont retournés contre lui. Alors David s'est retrouvé brusquement, non seulement lui, terriblement abattu, mais en même temps menacé par ses amis, n'est-ce pas? Et puis il y a ce verset. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Un verset, mais quel programme! Que tu puisses vivre ce verset ce matin. Que tu puisses reprendre courage. Parce que la volonté de Dieu, et il en a le pouvoir, c'est de te relever, de t'élever, et de faire de ta marche chrétienne une ascension, une progression qui va faire de toi un homme haut placé, une femme haut placée. Ça nous parle de rang, de dignité, ça nous parle d'autorité, de noblesse. L'enfant de Dieu, parce qu'il est enfant de Dieu, ce n'est plus n'importe qui. Ça n'est pas un pantin, une marionnette que le diable peut exploiter comme il le pense, mais il a une noblesse. Il appartient au Dieu éternel. Il est haut placé. La Bible nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Déjà, par anticipation à la glorieuse destinée qui nous attend dans le ciel, déjà par anticipation au plan spirituel, même si nous avons encore les pieds sur terre, nous sommes dans une dimension de foi, déjà nous sommes dans la jouissance du règne de Jésus. Nous régnons avec lui et Dieu t'appelle à prendre conscience de l'autorité dont tu es investi par le simple fait que tu es enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit, alléluia. Et déjà cette autorité, ce rang, cette dignité te permet d'adopter des positions fermes, victorieuses, par exemple celle de résister au diable. Amen. Eh oui, qui peut résister raisonnablement au diable? L'homme naturel, s'il devait tenter de lui résister, en face, il rigolerait, n'est-ce pas? Mais qui tu es, toi? Haut comme trois golden râpés, qu'est-ce que tu me résistes? Mais lorsqu'il s'agit d'une mamie, d'un papy, d'un adolescent, d'un homme, d'une femme qui appartient au roi des rois, au seigneur des seigneurs, et qui est investi de son autorité, alors mes amis, il y a là un impact que le diable en personne ne peut pas contester. Résister au diable et Il fuira loin de vous, pas à 2 mètres, mais loin de vous, alléluia. Et si quelqu'un devait en ce moment avoir maille à faire avec l'adversaire qui lui susurre des pensées troublantes, mensongères et qui le déstabilise, résiste au diable et il fuira loin de toi. Pourquoi ? Parce que tu es enfant de Dieu, investi d'une autorité, d'une dignité. Que le Seigneur soit béni. Et puis la troisième facette de son descriptif, et non des moindres, David se présente comme étant loin du Dieu de Jacob. L'onction. Le mot onction fait partie du vocabulaire des pentecôtistes. Mais je prie pour qu'il soit plus qu'un vocable, mais qu'elle soit une expérience personnelle, renouvelée, confirmée. L'onction. Pour David, l'expérience de l'onction, on pourrait dire des onctions renouvelées dont il a bénéficié, c'est certainement l'expérience la plus vitale de sa vie. Quand il en parlera dans ce fameux psaume, « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères », il mentionnera l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse. Onction, alors, j'ai essayé de donner définition, qu'est-ce que l'onction ? En fait, ça vient du mot chrisma, qui signifie huile, graisse, crème, onguent, parfum, tout ça, c'est dans le mot chrisma. Et donc, le verbe qui correspond, oindre, c'est donc non seulement répandre, mais c'est imprégner la personne de la graisse, de la crème, de ce produit. Il y a une notion d'imprégnation, de profondeur. C'est pas la rosée matinale qui s'évapore à 10 heures. Mais c'est, vous voyez, cette image. Et quand David a été, par exemple, oint, sa première onction, c'est chez son père Isaïe, hein, alors qu'il y avait tout un casting, Eliab, Shama, Abinadab et les autres, et chaque fois impressionnés par la prestance de ces gaillards, Samuel disait, c'est lui, le roi d'Israël, c'est lui. Et Dieu dit non, c'est pas lui. Voilà. Et donc ils sont tous passés, et puis voilà. Mais t'as pas un autre fils ? Ah si, oh, j'allais l'oublier. Tu l'avais oublié carrément. Oui, j'en ai un, mais bon, c'est... Oui, ah, lui, c'est le poète, le rêveur, il a sa harpe, et il discute avec les brebis. Et, voilà. Ben, amène-le, appelle-le. Et quand David, on peut supposer entre 14, 15 et 17 ans, vous voyez, dans ces âges-là, arrive, et il a une taille fine, une belle figure, rien d'un soldat, quoi. Hein. Il arrive et Dieu lui dit, voilà, celui que j'ai choisi, tu vas l'oindre. Alors, Samuel prend sa corne d'huile, pleine d'huile. Et la Bible nous dit, c'est là que David a été oint parmi ses frères. Parmi ses frères. À la différence de l'onction qui a été administrée au prédécesseur, au roi Saül, il y a une différence très parlante parce que les précisions bibliques ont leur importance, vous le savez. La Bible nous dit que pour oindre Saül, Samuel a pris une fiole d'huile et il l'a répandue sur Saül. Bon, Et ça a été, d'une manière publique, un geste parlant, voici maintenant votre roi. Ok. Mais pour David, ce n'est pas une petite fiole d'huile que Samuel utilise, c'est une corne d'huile. Et entre les deux contenants, il y a une différence capitale. La fiole, c'est un petit peu d'argile que le potier a façonné. C'est un petit récipient, une petite fiole, quoi. Donc c'est l'art d'un potier, c'est donc la réalisation humaine, capacité humaine, qui a conçu et fabriqué cette petite potiche. Sa contenance, très très modique, quelques centilitres, et c'est ainsi que Saül a été oint. D'une onction que l'on pourrait, en se projetant dans le domaine spirituel, qualifier de limitée. De limitée. C'était une onction, mais limitée quand même. Limitée. Pourquoi ? Parce que le volume d'huile était très limité et le contenant utilisé mettait en avant l'art de l'homme, la main de l'homme. Portons nos regards sur l'onction administrée à David. Quelle différence, quelle différence. Samuel va prendre une corne. Et cette corne, pour pouvoir l'utiliser, a nécessité un sacrifice. Il a fallu tuer un animal innocent, un bélier par exemple. Donc cette corne, elle parle d'un sacrifice. Il y a le témoignage très fort d'un lien qui associera toujours Jésus-Christ crucifié et le ministère du Saint-Esprit, symbolisé par l'huile. Il a fallu sacrifier un bélier, un taureau, prélever la corne, la remplir d'une quantité importante d'huile, parce que les capacités d'une corne de bélier sont tellement supérieures à celles de la petite fiole de Saül. Et c'est ainsi, avec une onction abondante, caractérisée par le sacrifice qui a précédé l'acte, c'est ainsi que David a été de la tête jusqu'aux orteils imbibé de cette huile. Mon frère, ma sœur, ne te contente pas d'une fiole d'huile limitée. Ne te contente pas d'un bon culte de temps en temps. Ne te contente pas d'une prédication de temps en temps. Grappiller sur Internet, que sais-je encore. Ne te contente pas de 3 gouttes et demie d'huile, mais réalise que la volonté de Dieu, c'est que toute ta personne soit trempée, imprégnée, imbibée jusqu'au chromosome de tes cellules, afin que tout ton être soit maintenant marqué du divin. Amen. Du divin. Et si la Bible ne mentionne plus aucune onction dans la carrière de Saül, elle en mentionne des onctions renouvelées dans celle de David. Parce que ça a commencé par une onction parmi ses frères, la cellule familiale, et puis ensuite, il va être invité par ceux de Juda. Il va avoir une deuxième onction qui va l'établir sur Juda. Et puis, plus tard, à Hébron, c'est tout Israël qui va l'inviter à venir. Et il va recevoir une troisième onction qui l'établit sur tout Israël. Mais il y a des versets, notamment dans des psaumes, qui lui permettent de penser très plausiblement que David a expérimenté plus de trois onctions. Il a été oint, arrosé d'une huile fraîche. Il était renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, nous vivons des temps agités. Le diable nous donne des os à ronger. Il aimerait nous distraire. Il aimerait provoquer des digressions, des pertes de temps, des pertes d'énergie. Il aimerait nous induire dans des faux combats. Il aimerait nous épuiser par ses illusions. N'entrons pas dans ces pièges, s'il vous plaît. Mettez au centre de vos préoccupations la nécessaire effusion de l'Esprit de Dieu sur vos personnes, dans vos pensées, dans les sentiments de votre cœur, un domaine très fluctuant que le domaine affectif ou psychologique. Mais si l'onction de Dieu vient détremper ton être, je me dis une chose, si Christ, qui signifie loin, si Christ a eu besoin d'être loin de l'Esprit de Dieu, moi, qui suis du bois sec, j'en ai forcément tellement besoin. Je me souviens de cette remarque, c'est une anecdote, c'était il y a bien longtemps, un prédicateur, maintenant ils sont tous les deux dans la maison du Père, hein, dans le ciel, il s'appelait Kenneth Ware. Il avait comme formateur un certain Douglas Scott. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas? Alors, et c'était un soir à une demi-heure d'une réunion d'évangélisation, et ils étaient tous les deux dans un tout petit appartement, et Douglas Scott était en prière avec une feuille comme ça, où il avait son message. Et Kenneth Ware, qui était plus à ses débuts, hein, remarque la couleur de la feuille, du papier jauni. Alors il se dit, c'est pas la première fois qu'il prêche ce message, le frère Scott. Alors il vient et il lui pose une question. Frère, ce message, vous le connaissez par cœur. Regardez la couleur du papier. Mais pourquoi vous priez comme ça? Mais vous connaissez par cœur. Pourquoi vous priez? Et le frère Scott va dire, même si je pourrais le réciter de mémoire, chaque fois que je suis appelé à le prêcher, ce message, j'ai besoin d'une nouvelle onction. Sans cette onction, ce message serait une conférence froide, cérébrale et inutile, mais l'onction fait la différence. Mon frère, ma sœur, l'onction de l'Esprit de Dieu fera toujours dans ta vie la différence. Tu prieras différemment. Tu penseras différemment. Tu parleras différemment. L'onction fait la différence. L'onction de Dieu sur le Christ, ça peut surprendre, l'a poussé au désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert. Oui, mais quand c'est l'onction qui m'y conduit, même dans les déserts les plus sévères, je sais comment réagir. Je sais comment accueillir le tentateur. Avez-vous remarqué la concision, l'autorité, la rectitude avec lesquelles Jésus a réagi et a répondu aux tentations du tentateur? Il est écrit, l'onction fait la différence quand tu traverses ton désert. C'est l'onction qui fera la différence. Regardez ce qui est écrit du même Seigneur Jésus. Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Et dans Actes 10, 38, on ne va pas le lire. Avec cette onction, il est allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oint de son Père céleste, par l'effusion de l'Esprit de Dieu, il va de lieu en lieu. Et parce qu'il est oint, il est capable de faire du bien, de communiquer une grâce, une bénédiction, le salut, la foi, il fait du bien. Et il guérit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quelle gloire lorsque l'onction de Dieu est sur un croyant. Si lui, le Christ, a eu besoin de l'onction, combien plus en ai-je besoin moi-même ? Mes frères et mes sœurs, oh, l'onction divine dans la vie de l'enfant de Dieu va produire des résultats miraculeux, glorieux, prodigieux, extraordinaires. Extraordinaires. Premièrement, au plan personnel, au plan personnel, il y a ce texte qui m'a fait tant de bien et qui dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, l'onction, la graisse fera éclater le joug. Quand on visite les églises et qu'on commence un peu à connaître mieux les croyants, on est trop souvent affligé de voir des bien-aimés évoluer laborieusement, péniblement, dans leur marche chrétienne avec un joug et un fardeau. Trop de chrétiens ont de la difficulté à se défaire de certains jougs. Trop de chrétiens, par exemple, demeurent, malgré leur conversion, demeurent sous l'influence de leur passé. Alors, ils aiment Jésus, ils lui ont donné leur cœur, ils lui sont attachés, mais ils ont encore sur le coup un joug indésirable et pénalisant. Ça peut, comme je l'ai dit, être des éléments du passé. Ça peut être un drame vécu qu'on n'a toujours pas accepté, ni compris. Il subsiste un pourquoi, un pourquoi, un pourquoi. Pourquoi Seigneur ? Et c'est quelque chose qui pèse sur l'épaule et sur le cou. Comment faire ? Comment faire ? La clé nous est donnée. Ésaïe 10, 27, notez-le pour le relire chez vous. La graisse fera éclater le joug. L'onction, l'onction de Dieu répandue sur le croyant en souffrance va produire un formidable résultat de délivrance. Que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin. Une délivrance, c'est un mot qui est absolument radical. Ça veut dire que c'est fait. La délivrance, c'est pas « je me sens mieux ». C'est mieux que « je me sens mieux », c'est « je suis libre ». Amen. Je suis libre. Mon joug est atomisé. Voilà, il est en mille miettes, le joug. Que ce matin, Dieu mette ton joug en mille miettes. T'es complexe. Tes affaires et tes expériences négatives, douloureuses, troublantes, tes pertes de confiance, tes déficits en affection fraternelle, les reliquats d'amertume qui pourraient subsister au fond de ton cœur, tout ça, ça pèsera forcément sur toi, ça pèse sur toi, ça pèse sur ta joie, Ça pèse sur ta foi assurée. Ça pèse sur tes prières. Lorsque le joug est atomisé, ma prière est transformée. Elle devient la prière qui confesse la gloire du Seigneur. La prière de la victoire. Alléluia. Le joug a comme première incidence glorieuse chez le croyant, celle de faire briser, d'anéantir le joug et le fardeau. Peut-être le fardeau d'inquiétude qui pourrait tenailler ton âme pour ton enfant, pour ta conjointe, ton conjoint, tes parents, tes grands-parents, un collègue de travail, que sais-je. Il y a tellement de formes de joug, la clé demeure la même, c'est l'onction du Saint-Esprit. On a entendu bien des témoignages, vous savez, de bien-aimés qui ont été en but avec un problème. Alors bon, les pasteurs sont venus, ils ont cité des versets bibliques, mais le joug a demeuré. Et puis un jour, ces bien-aimés sont entrés dans leur chambre, ils ont fermé la porte, ils sont tenus devant le Seigneur. Et l'onction a été répandue. L'Esprit de Dieu les a visités, mais pas en passant. Non, rappelez-vous, une imprégnation profonde. Ils ont été comme graissés. Hein? Acceptez la comparaison. Graissés, comme une pommade qui pénètre, qui va, qui descend, qui s'introduit. Ils ont été pénétrés par l'onction de Dieu. Le résultat, c'est que le joug a été atomisé. Ils sont sortis de leur chambre vainqueurs, mis au large, mis en liberté. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Bien sûr, le temps me manque, mais juste en passant, l'exemple de ce jeune homme qui avait soif de voir la gloire de Dieu. Il avait soif de voir la gloire de Dieu dans son pays. Et il priait, il priait, il priait pour son pays, il priait pour son pays. Et un jour, après avoir prié, été visité par le Seigneur, il sort de sa chambre et il va voir sa mère. Et il dit à sa mère, « Maman, aujourd'hui, Dieu m'a donné l'Écosse. » Il avait reçu par l'onction. Et il est devenu un revivaliste au sein de sa génération. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Je poursuis. Première incidence, bien sûr, c'est chez le croyant, mais nous l'avons lu dans 1 Jean au chapitre 2. Nous avons lu ce texte qui mentionne l'onction. Alors, je vous disais que David a eu 3 onctions explicitement mentionnées. Dans le passage de 1 Jean 2, le mot onction revient 3 fois aussi. Ça revient 3 fois. Alors bon, sans extrapoler, on peut quand même penser à la Trinité, parce que voilà, c'est une onction dans laquelle la Trinité est partie prenante, participe à oindre le croyant de cette divine onction. Et dans ce texte, il nous est dit que cette onction, elle nous enseigne. Et Jean se permet de dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il faut préciser les choses. Il ne faut pas que vous utilisiez ça pour dire, ben, donc plus de pasteurs maintenant, on n'a plus besoin d'être enseigné. Non. Dans le contexte, il est mentionné certains personnages qui voulaient égarer les croyants. Donc, qui voulaient les induire dans des déviations doctrinales, n'est-ce pas? Alors, Jean est en train de leur dire, mais vous n'avez pas besoin que des prédicateurs ambulants viennent vous enseigner, parce que ce que vous avez compris et reçu au commencement doit demeurer. Et l'onction que vous avez reçue va vous enseigner à demeurer aux éléments de foi que vous avez découvert au commencement, à l'origine. L'onction, elle nous enseigne. Un jour, j'avais baptisé 2 jeunes qui étaient frères, Et 3 ou 4 semaines après leur baptême, ils sont venus me voir, pasteur, comment on fait dans telle situation pour connaître la volonté de Dieu, comment on fait, est-ce qu'il est permis de faire ceci, de faire cela. Donc, ils m'ont énuméré des situations, je dirais, très particulières du quotidien. On peut se trouver hein, devant des choix, comment on fait pour gérer des tas de circonstances du quotidien vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des copains du lycée. Comment on fait? Alors je leur ai dit, écoutez, pour toutes ces situations qui constituent notre quotidien, il n'y a pas de recette particulière. Il y a simplement cette réalité que le Saint-Esprit nous enseigne. Gloire à Dieu. L'onction, elle nous donne à l'instant T la sagesse de Dieu pour gérer nos comportements. Voyez, quelquefois, mais ne le prenez pas comme prétexte, hein, quelquefois, l'onction de Dieu a inspiré une chrétienne de se passer du culte exceptionnellement parce qu'il y avait un enjeu de témoignage à l'égard d'un membre de la famille qui était très très raide, très sensibilisé à cet aspect des choses, et on a gagné le membre revêche par cette sagesse dictée par l'onction du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut rater tous les cultes maintenant. Mais l'onction, elle vous enseigne pour gérer les multiples et diverses mises en situation. Si chaque matin, vous vous êtes imprégné de cette graisse, cette huile sainte, tout au long de la journée et au fil des circonstances, cette onction va vous enseigner. Alléluia. Et puis, je vais très très vite maintenant, parce que l'heure a tourné. L'onction, elle brise mon joug, elle m'enseigne, elle m'équipe face à la persécution, elle me motive face à l'évangélisation. On a toujours constaté que les croyants les plus zélés, les plus persévérants et les plus vainqueurs, ce sont ceux qui ont connu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et je prie pour que l'Église que nous constituons soit renouvelée dans le zèle, la joie, la motivation de l'évangélisation. J'ai été content de chanter avec vous hier, même s'il y a eu quelques fausses notes, elles ne venaient que de moi. Hein. J'étais très très heureux, malgré finalement, une heure avant j'étais fatigué, j'étais vraiment ras les pâquerettes. Mais le fait d'être avec vous, de chanter et de voir que les gens étaient là, ouverts et ils s'arrêtaient pour écouter, pour parler, etc. C'est une belle expérience que l'église d'Aubagne se lève. Et avec l'onction du Saint-Esprit, la passion des perdus, qu'elle relève le défi de l'évangélisation. Alléluia. Et puis je termine, alors cette fois pour de bon, hein, David, pour finir, se présente en tant que chantre agréable d'Israël. Le chantre agréable d'Israël. Alors, moi je dis une chose, honnêtement, c'est la conséquence évidente de tout ce qui précède. Si je me remémore de la merveilleuse grâce dont je suis le bénéficiaire, hein, gloire à Dieu, si je suis entré dans le règne avec Jésus, je suis parmi les grands pour le royaume de Dieu. Si je suis renouvelé dans une abondante onction du Saint-Esprit, j'ai envie de chanter. Oui ou non? Le chantre, mais je chante pas n'importe quoi. Et quand je lis le chantre agréable d'Israël, c'est pas sur un plan du timbre de voix, on connaît pas quel timbre il avait, est-ce qu'il était ténor, basse ou je sais pas quoi encore, baryton, mais non, c'est pas une considération mélodique, harmonique, artistique, c'est pas ça. En quoi les chants qu'exprimait David étaient agréables? Eh bien, vous savez que dans l'Ancien Testament, J'en profite pour dire que si Dieu le permet, le dimanche 5 janvier, après l'Agape, j'aimerais réunir tous ceux qui sont dans le service louange dans l'église, qu'on puisse partager un moment à tête reposée, tranquillement. Mais juste en passant, dans l'Ancien Testament, les chants occupent une importance évidente. C'était structuré, organisé, il y avait des chantres, des chefs de chant, des pupitres. David, du reste, David a été l'organisateur de toute cette expression en l'honneur de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, alors, c'est beaucoup moins mentionné, mais c'est quand même mentionné. Et moi, je me dis une chose, c'est que les quelques mentions du Nouveau Testament qui touchent au chant suffisent pour nous édifier. Et pour permettre que nous ne négligions pas cette expression si prisée par le Seigneur, il est écrit dans Colossiens 3:16, ce verset que vous connaissez certainement. Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Gloire à Dieu. Tout un programme, hein? Nous sommes appelés parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes là, haut placés, et nous sommes loin du Saint-Esprit à émettre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu cette expression de chanter à Dieu, chantant à Dieu, on chante à Dieu. Le destinataire de nos cantiques, c'est Dieu. Alléluia. Nous chantons à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Nous ne chantons pas n'importe quoi, mais nous chantons sous l'inspiration de la grâce. Par déduction, sous l'inspiration de la grâce qui nous a été acquise par le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'aime tellement, tellement les cantiques qui élèvent Jésus, qui proclament Jésus, qui proclament sa victoire et son tout est accompli à Golgotha. J'aime tellement ces cantiques qui proclament que Jésus est ressuscité, que le tombeau il est vide, que Jésus est vivant. C'est tellement à la gloire du Seigneur. C'est tellement efficace aussi, horizontalement, parce que dans ce texte, il est dit « exhortez-vous les uns les autres ». Amen. Donc, encouragez-vous, faites-vous du bien, instruisez-vous, fortifiez-vous mutuellement par des cantiques spirituels inspirés par la grâce que le Seigneur nous donne, eh bien, de vivre ces quatre facettes de ce qu'a été la vie de David. Alléluia, même si je suis en prison avec mon frère Silas, je veux chanter les louanges du Seigneur. Alléluia. Et on ne sait pas quel résultat ça peut avoir. Je ne sais pas si Paul s'attendait à voir la prison trembler et les verrous sauter. En tout cas, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Ça a commencé par deux. Il y a eu un duo, hein, un duo. Carcéral, hein, qui a chanté les louanges du Seigneur. Eh bien, quand tu te trouves toi-même dans ce qui te semble être une prison, tu es un petit peu enfermé par toutes sortes de pensées négatives, mais chante la grandeur du Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Et que la puissance de Dieu se manifeste pour ton bien, mais aussi pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait terminer en priant le Seigneur, en pensant aussi au programme qui va avoir lieu tout à l'heure, afin que la même onction conduise et dirige tout ce programme, que l'onction de Dieu soit sur les enfants, les ados, les jeunes, les animateurs, les musiciens. Alléluia. Sur moi-même, on a tellement besoin de cette onction, que les cœurs soient touchés à salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, si quelqu'un prend conscience d'une certaine sécheresse qui se serait installée dans sa vie chrétienne, Dieu ne te veut pas déshydraté, sec, pauvre, affaibli, mais Dieu veut renouveler toute ta personne par une abondante onction. de son Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu.